Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview où aujourd'hui je me retrouve avec Valérie. Donc bienvenue sur cette interview et bonjour à toi.
Bonjour, bonjour Gwen, merci de m'avoir invité.
Ben, merci à toi de participer à cette interview, ça fait super plaisir. Donc tout d'abord, je voulais te demander si tu pouvais te présenter rapidement ce que tu fais sur YouTube et sur Instagram. Donc ce que tu fais comme vidéo, quel est ton but et ton message à propos de ta chaîne.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Valérie, j'ai 31 ans, je suis physicienne médicale. Donc ça, c'est mon activité officielle. Et en dehors de ça, j'ai aussi différentes casquettes. Donc je suis investisseuse, que ce soit en immobilier ou dans plein d'autres domaines. Et je suis aussi influenceuse, visiblement, depuis quelque temps.
Ça marche. Du coup, je voulais te poser la première question, c'était combien as-tu de sources de revenus différentes? Parce que tu nous parles de l'immobilier, mais tu parles de beaucoup de sources de revenus sur ta chaîne. Donc, si tu pouvais nous développer un peu quelle source tu as.
J'ai environ actuellement, alors ça dépend comment on les catégorise, mais j'ai une petite dizaine de sources de revenus. J'ai bien évidemment mon salaire, j'ai mes loyers en immobilier, j'ai plein de petites sources de revenus à droite à gauche qui viennent de mes placements financiers, mais qui sont des dividendes que je touche, des intérêts que je touche de mes différents placements. Qu'on peut regrouper dans une catégorie financière, mais en fait que je réinvestis. Donc je ne considère pas forcément ça comme des revenus à proprement parler parce que j'en profite pas encore. Et quatrième grande catégorie, c'est l'entrepreneuriat avec mon activité de création de contenu.
Ok, et du coup, je vais te demander, tu as plusieurs biens immobiliers actuels?
Oui, je suis propriétaire là, depuis quelques mois de mon troisième immeuble de rapport
Ah ouais.
et j'ai investi aussi dans ma résidence principale avec mon conjoint.
Ok, donc ça commence à faire un petit empire si déjà trois
C'est
immeubles. Enfin, c'est
un petit
cool.
empire. Oui, j'ai acheté le premier en 2018, quatre appartements, le deuxième en 2020, quatre appartements aussi. Et là, c'est deux appartements, mais c'est plutôt deux maisonnettes avec des petits jardins à l'arrière. Donc, ça me permet de diversifier par rapport à mes deux premiers immeubles où c'est plus des petites surfaces, des studios, des petits T2. Et ouais, non, ça commence
Et là,
à bien faire, je trouve.
vous pensez continuer tous les deux à investir, enfin, à accélérer encore, ou pensez plutôt vous calmer pour les prochaines années?
Du coup, là, tous mes biens immobiliers dont j'ai parlé, mes trois immeubles, bonjour, bonjour mon chat, tous mes biens immobiliers, je les ai achetés toute seule. Donc, je suis endettée seule. Il n'y a que la maison qu'on a en indivision avec mon conjoint. Et ah oui, j'ai acheté un appartement au Mexique aussi avec des copains il y a quelques mois. C'était une grande aventure, ça aussi. Et pour l'instant, oui, en effet, on va se calmer parce que je suis bien endettée. Par contre, peut-être, mais d'ici, on va dire, les 3 à 5 ans, on verra suivant comment ça fonctionne. Je pense que j'investirai, mais plutôt en SCI. Parce
Donc
que comme je suis en
avec une
création de
société,
boîte, voilà. Comme je suis actuellement en création de boîte pour mon activité sur YouTube, en fait, je me pose la question de est-ce que l'argent de cette boîte, plutôt que de les prendre en dividende, un jour, je ne les ferai pas remonter dans une holding qui détiendrait aussi une SCI et la SCI pourrait investir. Donc, c'est quelque chose que j'envisage pas mal aussi. Mais pas tout de suite. Là, pour l'instant, je suis bien.
Et justement, tu parlais de ton appartement au Mexique. Je voulais te demander la chose la plus difficile dans cette aventure, parce que tu avais fait une vidéo dédiée à cet investissement, et comme c'était à l'étranger, en plus c'était assez loin de la France justement, dans une autre langue, tout ça, je suppose que ça va être beaucoup plus difficile que d'investir en France.
Oui, alors on avait quand même une petite chance, c'est qu'on a investi avec une entreprise qui appartient à un Français. Il y a des employés français, donc on avait des interlocuteurs français. Les plus grosses difficultés qu'on ait eues, c'est des problèmes de communication, on va dire. Parce qu'en fait, quand on a investi aussi loin, on s'est dit, le souci, c'est qu'on a toujours la petite peur de se faire arnaquer, etc. Parce que comme c'est pas à côté de chez soi, on ne peut pas aller vérifier vraiment les choses.
Ouais, tu fais pas les checks toutes les semaines pour
La
le
personne
tout.
qui a géré notre dossier, qui s'est occupée de notre dossier au début, elle a fait un peu n'importe quoi. On a eu des problèmes de virement qui étaient perdus,
Ah
entre
ouais.
très gros guillemets. Donc, il a mal fait son boulot de voir si l'argent était bel et bien arrivé. Et pendant des mois, il nous a baladés en nous demandant des justificatifs comme quoi on avait bien fait les virements, etc. Alors, on lui a donné tous les justificatifs du monde, mais ça lui il contenait pas. Et lui, derrière,
Ouais.
il n'arrivait pas à nous prouver que c'était pas arrivé. Donc, il y a eu ça s'est réglé. Après, on a eu un autre interlocuteur. Et oui, de communication aussi, parce que pareil, pour tout ce qui était les démarches avec le notaire, tout était très lent à répondre, à avoir des nouvelles, etc., à faire avancer les choses. Enfin, voilà, c'était beaucoup de charge mentale, beaucoup de stress, parce que toi, du coup, comme t'es pas sur place, t'as pas la main dessus, tu peux pas aller donner un
Ouais.
coup de pied aux fesses aux gens pour avancer. Donc c'était surtout ça.
Ah, du coup, vous étiez vachement dépendant des interlocuteurs.
Des
Enfin, je veux
autres.
dire, s'ils mettaient 3 semaines à répondre, enfin, vous avez dû avoir beaucoup de retard juste à cause
C'est
de
ça.
attendre les réponses.
C'est ça. À la base, on était censé signer la vente en mai. Et puis au final, comme tout prenait énormément de retard, j'ai signé début juillet. Donc
Ok.
c'est pas énorme,
Ouais,
mais
mais quand même.
quand tu attends des nouvelles pour que ta copine elle sache si elle prend ses billets d'avion ou pas, et à une semaine près, avec toutes les procurations, les papiers et tout, là, ça. Voilà. Et
Ouais,
puis tu as
comme
toujours
vous y pensez
le.
tous les jours aussi, enfin, comme je dis, si
Oui.
c'est une grosse charge mais que c'est sur 2 mois, ça peut dire, ouais, c'est pas tant que ça. Mais si
Voilà,
ça vous prend tout le temps.
et en plus, tu as toujours la petite question de se dire, est-ce que je relance une énième fois? Est-ce que ça va pas vexer la personne qui est en face de moi, qui va pas potentiellement se dire, oui, bon, bah, s'ils sont pénibles, j'arrête, enfin, ils
Ouais.
m'embêtent, j'avance pas leur dossier, etc. Donc, tu avais toujours un petit peu cet entre-deux où il fallait trouver un équilibre, et ça, c'était pas facile. Donc, je suis contente que ce soit derrière moi.
Ok. Ensuite, du coup, je vais te demander ton meilleur conseil pour un investisseur en bourse confirmée, parce que en fait, souvent, je demande ça pour un débutant, et souvent, quand ensuite on a débuté, qu'on commence à investir, eh ben, là, du coup, je pose jamais la question. Du coup, enfin, en gros, quel serait ton conseil pour quelqu'un qui investit déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui est déjà redécouvert?
La vraie réponse, c'est est-ce que je suis la mieux placée pour donner des conseils à quelqu'un qui sait comment il faut investir en bourse? Parce qu'en fait, je pense qu'il faut pas. Le but, c'est pas de réinventer la roue à chaque fois. C'est pas de dire, bon, bah, maintenant, je sais comment ça marche, il faut que je fasse mieux, etc. Je pense que le meilleur conseil qu'on puisse recevoir quand on investit dans n'importe quel placement, d'ailleurs, c'est vraiment de suivre sa ligne de conduite qu'on s'était fixée à la base. Investir tous les mois régulièrement, tenir le plan d'investissement qu'on avait, je pense que c'est le plus important, et pas essayer de partir dans des trucs un peu exotiques ou du trading ou des choses comme ça, parce que tout d'un coup on devient impatient ou que tout d'un coup on se dit ah, ça va pas aussi vite que ce que je pense, etc. Je pense que c'est plutôt
Ok.
ça, c'est comme on dit, c'est pas un sprint, c'est un
Ouais.
marathon. Et le souci, c'est que des fois, bah, même moi, hein, même dans n'importe quel placement, tu te dis, ah, si dans tel domaine, à la base, je me suis dit, tiens, je vais investir en crowdlending 20 euros par projet, mais qu'au final, je trouve que ça va pas vite et je commence à mettre 100 euros, c'est un peu sortir de la ligne que je m'étais fixée. Sauf si ma situation a évolué et que je me dis, bah, maintenant, je veux mettre 100 euros
Ouais.
par projet. Mais
Ok.
pourquoi tout d'un coup tu ferais quelque chose de différemment alors que tu sais que la bonne stratégie, la bonne attitude à avoir, c'est toujours faire pareil, être consistant, à investir dans des choses qui sont pas farfelues, et voilà, je pense que c'est juste ça.
Ok. Ouais, parce que souvent quand on investit tout ça, on peut vite avoir l'effet Dunning-Kruger, tu sais, où vite on est un peu beaucoup de confiance en soi et on commence à faire un peu n'importe quoi. Du
C'est
coup,
ça.
comme tu dis, ouais, vaut mieux garder sa ligne et rester sur un truc qui marche que tenter trop d'exotisme. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais après on peut garder un petit peu d'exotisme dans ses portefeuilles, mais pas non plus que ce soit trop important, quoi.
Voilà, faut savoir où est la limite, et puis faut se fixer un peu des garde-fous en fonction de ce qu'on est prêt à perdre ou pas. De toute façon, l'investissement, c'est toujours ça. Par exemple, pour parler, bah, de quelque chose d'exotique, les crypto-monnaies.
Ouais.
Moi, quand j'ai commencé à investir en crypto-monnaie, je savais quelle somme je ne voulais pas dépasser. Et je me suis arrêtée là. Tu vois? Et
Ouais, tu t'es pas dit,
après.
oh, ça monte, je remets, je prends des effets de
Alors,
levier.
il y a un moment où j'ai fait ça, un moment parce que je savais que j'avais encore, on va dire, de la marge, entre guillemets, par
Ouais.
rapport à mon objectif. Mais c'est stupide de se laisser avoir par ses émotions. De toute façon, que ce soit trop de peur ou trop de confiance,
Ouais,
c'est dangereux.
de l'un ou de l'autre côté, dans tous les cas. Ok. Et est-ce que du coup en bourse, t'as une grosse erreur que vraiment t'as fait au début ou même plus tard et que genre c'est impardonnable entre guillemets et que genre on pourrait éviter facilement, je veux dire.
Impardonnable, non. J'ai pas investi dans je sais pas quel stock qui tout d'un coup
Ouais.
était en mode, il y avait une grosse hype autour du truc, voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ah si, j'avais acheté à sa sortie Coinbase.
Ah ouais.
Quand ça avait été introduit en bourse, sauf que ça a piqué, après ça s'est cassé la figure, et ça s'est d'autant plus cassé la figure que la crypto s'est effondrée par la suite. Donc bon, bah, je vais les garder. Moi, je suis. Alors, c'est des stratégies personnelles après. Moi, je suis. Quitte à se dire, l'argent que j'investis, je suis prêt à le perdre. Je suis plutôt favorable au fait de garder quelque chose qui ne marche pas, par exemple mes actions Coinbase,
Coinbase, ouais.
plutôt que de les revendre à perte.
Ouais.
Parce qu'en fait, je me dis, ok, j'ai perdu, mais si jamais dans 10-15 ans, tout d'un coup,
Ça remonte, ouais.
ça remonte, et à ce moment-là, je peux en sortir tranquillement en n'ayant pas laissé trop de plumes. Voilà, je suis plutôt favorable à ça. Non, là, on va dire que oui, la plus grosse erreur, c'est vraiment tout au début quand j'ai commencé à investir, donc c'était fin 2019. Bah, du coup, j'avais un peu d'argent et j'ai commencé avec mon PEA, et du coup, bah, je suis pas allée progressivement. On va dire, j'ai commencé à acheter plusieurs actions, j'ai diversifié sur plusieurs actions, mais j'ai mis beaucoup d'argent
Ouais.
en quelques jours, quoi, on va dire, plutôt que de dire, bon, bah, allez,
Le
toutes les
lycée.
semaines, j'achète un truc, voilà, ou tous les mois.
Okay. Ouais, du coup, donc pour un investisseur qui débuterait, on pourrait dire donc par exemple comme erreur d'éviter de tout mettre d'un coup si on se dit ouais j'ai 1 000 euros de tout claquer comme tu dis en 2 jours, 3 jours, et pourquoi pas répartir sur une semaine, deux
Voilà,
semaines, un mois, ou même plusieurs
vaut
mois.
mieux généralement. Alors, ça dépend, il y a certaines enveloppes d'investissement, par exemple certaines assurances vie ou des choses comme ça, où tu dois mettre de l'argent à l'ouverture et l'investissement en une fois. Mais par exemple, après, c'est des versements mensuels. Ou ça c'est mieux. Mais oui, si toi tu te dis je vais investir 1 000 euros, faut pas le mettre en une fois. Faut peut-être le dire, moi, je vais lisser un peu mon risque, je vais mettre 200 euros par mois pendant 5 mois. Et puis après, je continuerai avec d'autres versements.
Et j'ai vu que sur ta chaîne tu parlais souvent d'une formation en immobilier. T'avais fait un live et tout. Une fois t'en avais parlé longuement. Et c'est une formation que j'ai vu que tu as recommandé plusieurs fois. Enfin, si je me trompe pas, il y a une formation en immobilier que tu recommandes plus que les autres et que t'es vraiment fan. Donc pour les personnes qui souhaiteraient se lancer, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de
Alors,
ce que c'est que tu fais?
je les ai pas toutes faites, hein. J'en ai fait une.
Ouais.
J'en avais pas forcément besoin, mais entre guillemets, je me suis laissée avoir par la pub à force de regarder des vidéos. Et voilà, j'ai fini par la faire et ça m'a beaucoup apporté, pas forcément sur les connaissances. C'est la formation de Christopher Wangen.
OK.
Donc, j'en parle de temps en temps parce que je participe à des événements qui sont organisés par son équipe, etc. Et non, j'ai moi ce que ça m'a beaucoup apporté surtout, c'est la communauté. Parce que je pense que c'est très compliqué d'investir en étant seul. Ne serait-ce que parce que tu as besoin d'échanger avec des gens qui sont passés par les étapes par lesquelles tu es déjà passé. Tu as besoin d'apprendre des autres et de l'expérience des autres, des erreurs des autres surtout.
Ouais.
Généralement, c'est les galères des autres dont on apprend le plus, je trouve.
Mais tu gagnes un temps de
Parce que
malade, quoi.
c'est ça. Donc moi, c'est à ce niveau-là, ça m'a beaucoup apporté. Et puis surtout, ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont super et qui sont devenus des copains aujourd'hui. Et voilà.
Ok. Et du coup, pour apprendre l'immobilier et te former, t'as été passé. Ce que tu dis là, c'est plus la communauté
Ouais.
qui t'a apporté des choses. Pour te former au niveau connaissance, t'avais fait comment, du coup?
Bah moi, en fait, quand j'ai découvert l'immobilier, à la base, je l'ai découvert sur YouTube. avec des pubs. Bah, du coup, j'ai eu des pubs de Christopher et d'autres personnes. Et en fait, l'immobilier, bah, le principe d'investir avec l'argent de la banque, etc., de toucher les loyers et que ça te paye, tu fais en sorte que ça te paye un peu toutes tes charges, c'est quelque chose qui m'a tout de suite attirée. Et en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai dévoré tout YouTube.
Ah ouais.
Pendant un mois, j'ai regardé tout le contenu possible et inimaginable sur les calculs de rentabilité, comment tu montes ton dossier bancaire, etc., comment tu négocies la fiscalité, comment ça fonctionnait. Enfin, voilà.
T'as reconstitué toutes les étapes.
Voilà.
Ouais.
Et en fait, en quelques mois, enfin vraiment, en un mois, j'ai tout vu, j'ai l'impression que j'ai tout vu, j'ai tout appris. Et en fait, moi, après, je me suis lancée très rapidement avec mon premier immeuble. Et cette formation-là, au final, je l'ai achetée au bout d'un an, je crois. Mmh. Enfin, un an plus tard, à l'été 2019. Et voilà, je me suis rendu compte au final que beaucoup de choses qu'il y avait dedans, je le savais déjà avec l'expérience. Mais on va dire, les formations, pour moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Enfin, de toute façon, c'est... qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles en gratuit sur Internet et que ça peut être un booster pour pas mal de gens, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu te formes gratuitement et toi-même que tu vas pas y arriver. On va dire que c'est une façon rapide d'avoir accès à de la formation de façon condensée. Et voilà.
Ouais, t'as tout au même endroit et t'as pas besoin de chercher. Donc toi, par exemple, t'as été chercher plein de chaînes, t'as regardé plein de vidéos, t'as tout reconstitué... dans l'ordre, mais c'est pas parce que c'était gratuit que c'était des mauvais conseils et que ça t'a quand même aidé, quoi. C'est juste si tu veux aller plus vite et pas t'embêter, c'est mieux de prendre une formation.
C'est ça. Après, enfin voilà, franchement.
Après, t'as les livres aussi, t'as plein de façons d'apprendre finalement.
Je pense que c'est quand même intéressant de confronter plein de sources différentes et plein de points de vue différents. Le fait justement d'avoir du contenu gratuit, déjà ça te permet de recouper les informations, voir s'il n'y a pas des gens qui disent n'importe quoi.
Ouais, ouais.
et si tu as un doute, le site des impôts, il est très bien fait, hein, pour tout ce qui est question fiscalité, etc. Moi, j'ai beaucoup lu le site des impôts. Et en fait, t'as tout dessus, pareil. Donc, non, moi, je pense que c'est bien d'avoir plusieurs sources. Et même comme tu disais, les livres, un livre, c'est quoi? C'est 20, 30 euros. Ouais. Et t'as aussi énormément d'informations dedans, et voilà, c'est un autre support. Il faut aimer lire, mais au moins tu peux prendre des notes, tu peux surligner, etc. Et faut juste choisir la façon avec laquelle on est la plus à l'aise.
Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, je voulais te demander, t'as pas eu peur quand t'as investi la première fois en immobilier? Est-ce que, comme t'es parti assez vite, tu t'es formé tout ça, tu t'es dit, ok, c'est bon, je passe à l'action, plutôt que d'attendre 6 mois, 1 an et d'hésiter? Et est-ce que t'as eu peur à ce moment-là? T'as senti un truc où ça a été quand même...
Non, j'avais... si j'ai senti un truc, c'était plutôt de l'excitation, ouais. On va dire. Parce que j'ai dit, allez, je fais un truc. Je saute dans le vide, entre guillemets. Non, moi, j'ai toujours été très rapide à prendre des décisions. Mmh. Par contre, je prends des décisions rapidement parce que je sais que je suis solide derrière. Tu vois, je ne me serais pas lancée dans l'immobilier si j'avais rien appris avant. Voilà, si ça faisait 2 jours que j'avais découvert ça, je vais faire ça. Et du coup, tu fais ton truc et tu te poses les questions après. Non, il faut se poser toutes les bonnes questions avant. Mais après, rester statique et rien faire et jamais se lancer, ça, après, c'est plutôt une question de peur. Après, moi, je ne l'ai jamais caché. J'ai une très bonne situation financière. Je suis bien payée, etc. Donc, je savais que j'étais en capacité de le faire. Et que si jamais ça se passait mal, je pouvais assumer derrière.
Ouais. Ok, ouais, donc t'es pas obligé de revendre à perte ou de... Enfin, en fait, tu t'es imaginé le pire scénario possible, tout ce qui pourrait avoir de mal, tu t'es dit, si jamais pendant 3 mois, j'ai pas de locataire, je peux... ça va pas tourner au cauchemar et je pourrais rebondir, quoi.
Moi, je sais que j'ai trouvé des biens immobiliers qui prennent en valeur, qui ont pris en valeur. Donc ça, la perte de valeur, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Et si ça perd en valeur, je ne les revends pas. Enfin,
ouais, comme tout à l'heure, est-ce que tu dis.
Voilà. Et non, la pire des situations pour moi, c'est si jamais j'ai 0 locataire, est-ce que je peux payer le crédit? Oui. Donc, voilà. et après, bah, plus j'ai acheté d'immobilier, maintenant j'ai 10 appartements. Donc, il y en a un qui n'est pas loué, qui sera en travaux pendant très très longtemps parce que c'est un gros morceau. Mais sur 9 appartements loués, enfin sur 9 appartements, à aucun moment j'aurai zéro locataire.
Ouais.
Statistiquement, c'est pas possible. Ouais. Ou alors, il y a vraiment quelque chose que je fais mal et il faut me remettre en question, ouais. il faut tout arrêter. Mais voilà, c'est plus t'as de biens immobiliers, plus t'as des chances d'avoir des logements vacants, 1, 2, 3, mais tous en même temps, c'est pas possible. Si tu fais les choses bien, c'est pas possible.
C'est comme les SCPI, on voit, enfin eux, c'est des milliers de locataires, mais ils sont très résilients, enfin, même pendant la crise des 2008, tout ça. Ça a bien résisté. Mais du coup, ouais, oui. Donc, par exemple, pour commencer, c'est mieux d'acheter plein de petits appartements ou un immeuble, comme tu dis, que d'investir, par exemple, dans une résidence de luxe et d'avoir qu'un seul locataire, parce que là, ce sera plus risqué, quoi. Si t'as genre 300 000 euros, t'as un peu de budget, tout ça, que tu peux faire des gros trucs.
Ça dépend de la situation de chacun, mais moi, je regrette à aucun moment d'avoir acheté des immeubles. Parce que je suis totalement propriétaire de tout. Alors, si jamais il y a des travaux à faire, c'est moi qui assume tout toute seule. Mais j'ai pas à m'embêter avec les copropriétaires.
Ouais, ça, c'est bien.
C'est moi qui gère. Je sais quand est-ce que je devrais faire réviser la toiture. Je sais quand est-ce que je devrais refaire un coup de peinture dans les communs ou faire un coup de ménage. Ça m'arrive des fois de passer parce que j'ai un appartement en chantier et de faire un coup de ménage dans la cage d'escalier. Enfin, voilà, c'est...
Ouais, pas, t'as pas à te battre avec les autres propriétaires, les autres locataires, donc t'es tranquille, voilà. Quoi.
Et comme je te disais, bah, c'est sûr que par rapport à quelqu'un qui a un appartement, ou s'il n'y a pas de locataire, bah, il n'y a pas de locataire. Moi, déjà, sur le premier immeuble, ne serait-ce qu'avec 4 appartements, je pense que j'en aurai jamais 2 en même temps qui seront, jamais plus de 2 qui seront libres en même temps, quoi.
Ouais, sauf crise majeure, genre vraiment, faudrait que les prix soient tellement élevés que... Mais du coup, dans ce cas-là, tout le monde sera en difficulté, quoi. Enfin, je veux dire...
Après, tu t'adaptes aussi au marché. Si jamais, demain, tout d'un coup, je sais pas, l'économie s'effondre et en fait, personne ne peut payer son loyer, bah, tu te dis, bah, ok, bah, du coup, le loyer, c'est plus 400, c'est 100. Et voilà, et ça remontera dans quelques années. Il faut s'adapter aussi à l'économie, mais surtout, avant tout, il faut aussi investir dans un endroit où ça vaut le coup. Moi, j'ai investi autour de chez moi parce que je trouve que quand on commence, c'est quand même plus simple d'être pas loin. Mais,
ouais, c'est plus rassurant, voilà. Aussi, comme tu disais. Parce que tu avais d'abord commencé par le Mexique et après non, chez toi, là, ça aurait... C'est limite, ouais, tu cours avant de marcher, quoi. C'est un peu, enfin, tu...
Voilà, c'est, enfin, faut réussir à trouver la zone dans laquelle tu vas investir, une zone qui idéalement prend valeur, où il y a de la demande locative. Si tu fais de la location longue durée, notamment, après la courte durée, enfin, faut aussi prendre ces critères en compte. Si jamais ton but c'est de cibler des gens qui font du tourisme, bah, faut qu'il y ait un truc à visiter, un château, des balnéos, des trucs, ben voilà. Et non, faut juste être sûr de soi. L'emplacement, ça reste le critère numéro 1 en immobilier. Si t'achètes au bon endroit, déjà, c'est 50% du travail, je pense.
C'est clair. Bah, ça, c'est une citation de Warren Buffett, je crois, ou je sais plus. Tu sais, en immobilier, c'est emplacement, 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 et en bourse, c'est diversification. Diversification, diversification. Et justement, là, tu parlais d'investir près de chez toi, et j'avais vu dans tes vidéos aussi où tu disais que maintenant, selon toi, il n'y a plus besoin d'être à Paris forcément pour avoir des bonnes opportunités, que ce soit dans l'investissement ou même dans la vie professionnelle ou de tous les jours. Donc, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, parce que moi, personnellement, dans mon entourage, j'ai l'impression encore qu'on dit qu'il faut aller à Paris, il faut monter à Paris si tu veux faire des trucs. Enfin, j'ai l'impression d'entendre beaucoup ça. Du coup, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus dans cette interview.
Moi, je t'avoue que Paris, ça m'a jamais fait rêver. J'ai toujours vu Paris comme un espèce de piège, une espèce de ville sans su qui te pompe ton énergie et ton moral. Et comme oui, je le disais dans la vidéo, si c'est pour gagner 500 euros de plus par mois par rapport à un travail dans une petite ville, etc., ailleurs, mais qu'au final, tes transports, tu passes 2 heures par jour dans les transports et que tes transports, ils te coûtent 300 euros de plus par mois, est-ce que ça vaut le coup de gagner 200 euros de plus par mois en absolu?
Passer 4 heures dans le bus.
Mais voilà, passer 2 heures par jour dans les transports et être énervé, être fatigué, et que ta vie te coûte plus cher aussi, parce que voilà, c'est un fait. Oui, le logement aussi, c'est un gros budget. Déjà, c'est un gros budget quand t'as un salaire. Quand je vois déjà des gens autour de moi qui gagnent le SMIC galérer alors qu'on n'est pas dans une zone chère, je me dis, mais comment font les gens quand ils sont en région parisienne,
Paris, quoi. Ouais. Enfin, ils doivent aller super loin pour avoir un loyer abordable, quoi.
Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. D'autant plus qu'en fait, comme tout le monde veut monter à Paris, mais il y a plein de gens qui veulent bosser à Paris. Mais du coup, il n'y a plus personne qui veut bosser dans les petites villes, alors qu'il y a énormément d'entreprises qui cherchent aussi. Donc, c'est pas évident de se faire rencontrer les deux, les gens qui cherchent le boulot et les entreprises, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes canaux de recherche. Toi, si tu es à Paris, tu ne vas pas forcément te dire, tiens, à Tours, je ne sais pas, il faut que je regarde les boîtes qui cherchent des ingénieurs à Tours, si tu es ingénieur. Enfin, faut se poser la question. Mais en fait, moi, tous mes copains qui sont dans des petites villes, etc., ils s'éclatent. Il s'éclate.
Ouais. Après, ouais, c'est en fonction des choix de chacun, mais comme tu dis, si on n'aime pas Paris, on n'est pas obligé de se forcer à y aller. Enfin, si on cherche bien, on peut trouver. Enfin, même si on cherche tout court, on peut trouver des opportunités.
Il y a des gens qui sont très attachés à Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Pour ceux qui ne le sont pas forcément parce qu'ils n'ont pas leur famille là-bas ou qu'ils n'ont pas ou qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de sortir tous les week-ends dans la rue principale, faire du shopping, etc., ou d'aller au cinéma. Enfin, voilà. Moi, j'ai un cinéma chez moi aussi, il est très bien.
Tu ne vas pas faire 200 km pour aller au cinéma? Non, mais c'est provincial.
Non, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des choses à la campagne aussi, il n'y a pas que des vaches, et il faut sortir un peu de chez soi aussi, il faut regarder du pays. Moi, au contraire, quand j'ai trouvé mon emploi après mes études, j'ai trouvé dans une petite ville, du coup, je connaissais pas, mais je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais aller voir. Et en fait, on a passé un week-end avec mon chéri, on a dit, mais c'est trop bien. Enfin, Et en fait, tu te rends compte que, bah, ouais, mais non, il y a deux, trois rues, il y a que des restaurants, des bons restaurants, il y a des bars, t'as un petit centre commercial, t'as une rue commerçante, enfin, t'as tout ce qu'il faut, t'as la piscine, la patinoire, le lac, et t'as la nature autour, tu peux sortir loin, chez toi. Et tu payes pas 2000 euros par mois pour ton loyer ou ta maison.
Mais pareil, parce que même pour investir en IMO à Paris, il faut déjà avoir un gros budget dès le début.
C'est un gros budget. Après, c'est plutôt pour les gens qui veulent faire du patrimonial. Parce que généralement, à Paris, sur des longues périodes, tu sais que ça monte. Parce que tout le monde, justement, voudra toujours habiter à Paris, aller à la capitale et tout. Mais du coup, c'est patrimonial. C'est pas pour faire du cash flow. Okay. Notamment parce que tu as les loyers qui sont encadrés par les municipalités, soit Paris ou d'autres villes.
Mais en plus, ouais, du coup, tu as des sortes de lois et tout. Par exemple, pour le court terme, où tu peux faire que 90 jours pour pas concurrencer avec les hôtels, tout ça. Donc, c'est pas mal réglementé aussi. Je pense plus à Paris dans les grandes villes que dans les plus petites, quoi. Ok. Et du coup, je vais te poser une dernière question sur... plus ta vie professionnelle et d'entrepreneuse, je voulais savoir si c'était pour toi c'était difficile de concilier à la fois ton travail professionnel et en même temps ton entreprise, enfin ta chaîne YouTube, tes investissements, tout ça, ou si vraiment tu t'en sortais, que ça se passait plutôt bien.
Alors il y a des périodes où je m'en sors et des périodes où je m'en sors pas du tout. C'est énormément d'organisation. Mais ça dépend énormément de comment je me sens, de mon niveau d'énergie, de
plein de choses. C'est ça.
Par exemple, là, l'année passée, j'ai fait pas mal de contenu pendant la première partie de l'année. Puis pendant les grandes vacances, etc., j'ai un peu laissé tomber, notamment parce que je suis allée au Mexique. Généralement, les périodes où j'ai des gros coups de mou, c'est des périodes où, de toute façon, je suis en vacances et j'ai pas envie de me forcer à prendre de l'avance pour encore plus bosser, pour compenser pendant que je serai pas là et tout.
Parce que sinon, tu vas arriver, tu seras usé, quoi. Si t'arrives en vacances.
C'est ça. Tu sais que tu pars deux semaines, mais en fait, les deux semaines où tu pars, faut quand même après, c'est moi qui m'oblige à sortir du contenu ou pas, quoi. C'est mes choix. Et par exemple, en septembre, toutes les semaines, j'ai sorti une vidéo. Et après, j'ai eu beaucoup de choses personnelles. J'ai eu un mariage chez des copains. J'ai eu, pareil, des vacances, des déplacements. Et en fait, au bout d'un moment...
Là, tu ne veux pas tout faire non plus, quoi.
Voilà, donc j'essaye de Là, j'essaye d'être un peu plus régulière et de me dire, bon, bah, si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. De toute façon, ne pas me flageller en me disant, ah, c'est pas bien, t'as pas fait de vidéo cette semaine, parce qu'au bout d'un moment, j'ai déjà un boulot de cadre 45 heures par semaine qui me prend tout mon temps. Et quand tu sais qu'une vidéo YouTube, entre les recherches, l'écriture, le montage, etc., c'est 35 heures globalement. Je peux pas bosser 80 heures par semaine, plus les investissements. Après, il faut
pouvoir bosser tout pour ce ça. Que je fais à côté. Et plus ta vie normale, dormir.
Manger, dormir, accessoirement. Enfin, voilà, au bout d'un moment, je peux pas faire ça tout le temps.
Ouais, parce que des fois, de l'extérieur, on peut se dire, ouais, elle a plein de biens, en même temps, elle a son entreprise, en même temps, elle travaille. Ben, des fois, c'est comme ça, on se dit de l'extérieur, mais comment ils font pour faire autant de choses en même temps? C'est pas possible, quoi.
Il y a des coups de mou aussi, hein. C'est normal. Après, ouais, comme je te disais, c'est de l'organisation. Les niveaux d'énergie, là, depuis quelques temps, je me suis mise pas mal au sport. J'essaye de faire une séance, deux jours de repos, une séance, deux jours de repos. Enfin, une séance tous les trois jours, quoi.
Ouais, voilà.
Donc ça m'aide pas mal à canaliser les niveaux d'énergie. Et bah, en fait, c'est très bête, mais le fait d'avoir passé 30 ans, tu les sens.
Ah ouais?
Je l'ai senti, vraiment, je l'ai senti. Là, tu vois, ça fait 2 ans que je suis au-dessus de 30 ans et ouf. Et en fait, je me suis rendu compte que vieillir et voir que, oui, en effet, quand t'as 20 ans, entre 20 et 29 ans, t'es au meilleur de ta forme et qu'en fait, une fois que t'as passé 30 ans, va falloir bosser pour garder ton corps en bonne santé.
Ouais.
C'est assez violent. Moi, je bois quasiment plus d'alcool. Parce que ça te...
Ouais, genre t'as mal à la tête et tout. Enfin, genre, tu te sens pas bien, limite, si tu...
J'ai jamais... Non, mais par exemple, tu vois, en soirée, ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas pris une cuite, quoi. Je vais boire un verre de vin ou deux dans un dîner avec des copains, mais j'irai jamais au-delà, parce que ça vaut plus le coup par rapport à la semaine que tu vas te taper après, où tu vas être crevé, où tu vas pas te sentir bien, etc.
Ouais, tu vas mettre trop de temps à t'en remettre, quoi.
Voilà, en fait, moi, actuellement, j'ai trop de choses à faire pour me permettre de gâcher du temps, on va dire.
Okay.
Donc, c'est sportif, mais on essaye de faire en sorte d'y arriver. Éventuellement, un jour, ce que j'aimerais bien, c'est faire peut-être un temps partiel à mon travail, histoire de me dégager un peu plus de temps pour YouTube. Si vraiment, ça marche ultra bien et qu'en fait, je commence à avoir... Enfin, de base, j'aurais intérêt à arrêter de bosser pour faire que YouTube, mais moi, pas quand on voit plein de gens sur internet dire oui, vous voulez quitter le salariat, vous en avez marre de votre patron, etc. Moi, je suis désolée, je considère que le CDI, c'est merveilleux en termes de... Enfin, c'est une...
Là, t'as quand même des avantages, quoi. C'est
une sécurité. Si j'ai pas trop envie de bosser, si je suis un peu fatiguée, si je suis un peu malade, bah, c'est pas grave, je ferai une petite journée au travail, je serai un peu moins performante, mais mon salaire, il changera pas à la fin du mois. Si je dois faire du contenu, mais qu'aujourd'hui j'ai pas envie de filmer, j'ai pas envie de faire du montage et j'ai pas envie de me donner un coup de pied aux fesses pour avancer, ça tombera pas à la fin du mois, quoi, pour le coup. Donc voilà, tant que je pourrais, je concilierai tout. Et puis après, si à un moment faut faire des choix, parce que je me rends compte qu'il y a un côté qui prend vraiment trop de place et que le rapport entre le temps et le bénéfice que je pourrais en avoir est trop important. Je ferai des choix et on verra si on doit adapter ou pas.
Ouais, du coup, je voulais te... Donc, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, si jamais tu devais arrêter ton job, ce serait d'abord en temps partiel. Là, tu disais que tu faisais 45 heures, donc peut-être que tu passerais à 35 heures, puis un autre temps partiel, tu ferais progressivement pour que tu puisses arrêter.
Oui, je suis cadre, donc j'ai pas forcément d'heures, mais je travaille un nombre de jours, donc oui, peut-être que... Une solution pour réussir à mieux concilier ou à plus économiser mon temps et à basculer progressivement, ça serait justement de prendre un 80%, par exemple, un jour dans la semaine. Comme ça, je peux dédier ce temps-là à mes projets et voir comment ça se passe.
Ok. Mais là, du coup,
c'est toujours mieux que de faire le saut total. Ouais, par contre, si tu veux revenir en arrière, c'est compliqué, quoi.
Pas le temps de voir, mais si jamais tu coupes tout d'un coup, tu vas aller après rechercher... un CDI ailleurs, refaire tes preuves dans une entreprise, le monde à l'ancienne de te reprendre. Donc...
S'il vous plaît. C'est jamais bon de revenir comme ça, donc...
Ouais. Et du coup, en fait, là, c'est bien, parce que du coup, à la fois, tu as les avantages du CDI, Donc ça veut dire que si jamais tu tombes malade, tout ça, t'as, comme tu cotises pour le chômage, après tout ça, et en même temps, tu as l'avantage de l'entreprise, c'est-à-dire que si tu veux travailler plus et que tu arrives à faire plus de conduire plus de gens, tu peux avoir plus de revenus, et du coup, tu arrives en fait à cumuler les avantages de chaque
C'est ça. Après, je cumule les désavantages aussi. Par
Ouais, tu
exemple,
veux.
tu vois, pour mon activité sur YouTube, etc., là, je suis en statut auto-entrepreneur, mais du coup, je paye des cotisations sociales alors que j'ai déjà une protection sociale avec mon emploi. Donc,
Ouais,
voilà,
des trucs
je
que
me fais
tu payes en
aussi
ligne.
beaucoup taxer, mine de rien.
Ouais, ça marche. Bah, du coup, merci beaucoup pour cette interview, Valérie.
Merci.
Je voulais juste, du coup, que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver. Tu nous indiques ta chaîne YouTube.
Yes, alors du coup, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle Valérie. Si jamais vous ne trouvez pas Valérie directement, tapez Valérie Argent et vous allez forcément tomber sur ma petite tête blonde. Et sinon, j'ai également, de façon un peu plus anecdotique, un compte Instagram qui s'appelle Miss underscore Valérie underscore BL, mes initiales, où c'est plus un compte personnel qu'un compte professionnel, entre guillemets, mais voilà, je mélange un petit peu plus, je partage un petit peu plus des moments de ma vie et un petit peu de contenu aussi orienté finances personnelles et investissement, mais c'est plus perso, on va dire.
Ça marche. Bah du coup, de toute façon, les liens seront dans la description, donc pas de panique si vous trouvez pas. Vous pourrez trouver quand même, enfin, c'est pas grave. Bonne journée tout le monde. Merci encore à toi Valérie, et bonne journée également. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ta chaîne ou sur ton compte Instagram, parce que ça vaut le coup. Voilà. À bientôt, salut.
Merci Gwen, salut!